phénomène qui inquiète beaucoup l'Élysée. Les étudiants et les lycéens vont-ils rejoindre le mouvement? Le magasin, la violence est encore montée d'un cran aujourd'hui.
La plus rebelle des radios.
Bonsoir.
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 Bienvenue dans ce Canu Info. Nous sommes le mercredi 28 juin 2017. Il est 19h07. Et ce soir, nous accueillons le fil d'Ariane. Alors, de quoi va-t-on parler ?
De violence conjugale.
Alors ça, c'est pour dans une demi-heure, enfin si tout va bien, dans 23 minutes. On va essayer de faire rapidement, parce que ces crapules de la méga-combi nous ont encore, comme d'habitude, chopé plein de minutes. Et d'ici là, et ben après quelques brèves, on téléphonera à quelqu'un qui est en train de marcher entre Saint-Étienne et Lyon, la marche contre le projet d'autoroute A45. Ça sera notre invité téléphonique. Et puis, après ce coup de téléphone, on aura une petite rubrique « Il faut que ça se sache » sur le sens de l'accueil à la française. Et puis après, ça sera le moment du fil d'Ariane.
Et oui, et commençons par deux brèves de ce monde de merde. Donc un homme de 38 ans qui est SDF et originaire de République tchèque qui a été condamné à 2 mois de prison pour avoir volé une bière dans une grande surface. Donc il avait un sursis de 4 mois déjà et la justice l'a fait sauter. Ils l'ont emmené en prison, donc du ferme, pour une durée de 6 mois pour un préjudice de 80 centimes d'euros. Et donc la victime n'a pas jugé bon de se porter partie civile et donc de demander réparation. Et voilà les mots du procureur: le code pénal ne distingue pas le vol d'un bijou, d'une bière ou autre chose. Il retient si c'est avec violence ou pas. Voilà, et une deuxième brève pourrie, du moins de ce monde de merde, c'est l'opéra de Lyon qui vire les danseurs de son parvis. Comme chaque été depuis quelque temps, l'opéra installe un bar jazz sous les arcades l'été. Et par contre, la nouveauté de cette année, c'est qu'il y a une série de dispositifs qui empêchent totalement les danseurs et danseuses d'exercer leur art dans ce lieu donc devenu incontournable de la culture hip-hop lyonnaise. Donc, culture avec un grand C contre art de rue. Notre nouveau ministre de l'Intérieur ne transige pas là-dessus. Et donc, les b-boys et b-girls de Lyon ont décidé de faire entendre leur voix. Notamment, ont publié une tribune sur le site rebellion.info. Donc, 3 d'entre eux témoignent. N'hésitez pas à aller lire cette brève.
Après, qu'est-ce qui se passe ? La nouvelle suivante est peut-être un petit peu plus réjouissante, c'est que ça y est, on va bientôt pouvoir commencer à s'amuser, mais pas tout de suite, tout de suite. Bref, la CGT appelle à une journée d'action et de grève pour le 12 septembre. Ça y est, on sait depuis un moment, on sait plus ou moins, on sait avec des infos, des demi-infos, des infos démenties, mais on a quand même une petite idée de l'esprit dans lequel le code du travail va être réformé. Et puis tout ça devrait se passer en partie non négligeable pendant l'été et être finalisé théoriquement fin septembre. La CGT appelle donc à une journée d'action. Alors bien sûr, on imagine bien que les grèves et les machins en juillet-août, c'est pas trop la peine d'espérer voir des gens à des manifs. Mais donc c'est le 12 septembre, notez-le d'ores et déjà dans votre agenda, c'est un mercredi. Avec un peu de chance, on pourra même vous raconter la manif dans les heures qui suivent. Et puis enfin, notre dernière brève pour ce soir, c'est que l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, a fait sa conférence de presse tout à l'heure. Alors on vous en avait parlé la semaine dernière. C'est à propos de cette histoire de cuve dans l'EPR de Flamanville. On sait que la cuve qui a été faite, qui a été forgée dans les ateliers du Creusot, est en réalité une sorte de vieille merde pourrie. C'est-à-dire, pour le dire autrement avec des mots un peu plus techniques, un bien trop fort taux de carbone qui fait qu'elle résiste pas très bien aux chocs thermiques. Qui fait que potentiellement, alors tant que tout se passe bien, tout se passe bien, mais s'il y a un problème, cette cuve peut péter. Et si la cuve pète, c'est tout et tout le monde qui pète. Alors voilà. Alors l'autorité de sûreté nucléaire, qui normalement a une certaine indépendance et qui ces dernières années nous avait habitué à une certaine indépendance, sur ce coup-là, il semble quand même que la pression des intérêts économiques d'Areva, d'EDF, de la France globalement, des exportations de nucléaire française, etc., ait été un peu gigantesque. Et donc l'ASN a dit aujourd'hui, c'est bon, on peut y aller, on peut ouvrir cette EPR. Alors, avec une contrainte qui est une petite contrainte finalement au regard de ce qui serait raisonnable, mais qui finalement est quand même une contrainte qui est importante dans sa réalisation, EDF devra quand même remplacer le couvercle. Parce que ce couvercle est vraiment, vraiment trop fragile, le couvercle de cette cuve. Alors attention, quand on parle de cuve, c'est pas la bassine qui est rangée sous votre évier, c'est quand même quelque chose d'un peu plus gros. Et donc le nouveau couvercle, c'est 7 ans de chantier et plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est ça qui devra être fait d'ici 2024. Alors 7 ans de chantier, ça veut dire qu'il faut mettre ce couvercle en chantier dès tout de suite. En sachant que, alors pour revenir un tout petit peu sur cette EPR, pas très longuement, hein, mais juste pour rappeler qu'au départ, quand il a été commandé et que les travaux ont commencé en 2005, c'était prévu qu'il soit en service en 2012. Il devait aussi coûter 3 milliards 300 millions d'euros. Là, on en est à 10 milliards et demi d'euros que ça a déjà coûté. Ça, c'est sans compter ce rajout qu'il va falloir mettre pour le nouveau couvercle. Donc, c'est ça aussi le nucléaire à la française, l'excellence française du nucléaire, etc., etc. Alors voilà, il reste ce fameux appel à Nicolas Hulot. Alors la semaine dernière, on vous avait parlé de la pétition lancée par Sortir du Nucléaire. Ce matin, c'est Greenpeace qui a manifesté devant le site en demandant au ministre de ne pas autoriser la mise en service. Ça pourrait être, dans la théorie, un dernier recours. Dans la pratique, il y a vraiment très 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 peu de chances que Nicolas Hulot refuse ce truc. Pas que lui personnellement, qu'il soit rassuré par le père de Flamanville, mais le gouvernement dans lequel il est risquerait quand même de faire une très 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 sale gueule si jamais il faisait ça, assez peu de chance. Alors maintenant, on est théoriquement en ligne avec Marion. Marion, est-ce que tu nous entends ?
Oui, parfaitement.
Incroyable, ces inserts téléphoniques à Radio Canu, ça marche de mieux en mieux. Marion, où est-ce que tu es là tout de suite ?
Bien là, on est à Cellieu ce soir.
Alors, tu es à Cellieu sur le trajet de cette marche que vous faites de Saint-Étienne à Lyon ?
Absolument, c'est ça, c'est notre deuxième étape. Donc, nous sommes partis hier matin.
Et donc, c'est une marche pour protester contre le projet d'A45, la deuxième autoroute qui devrait relier Saint-Étienne à Lyon. Comment ça se passe, la marche ? Vous êtes nombreux ?
Oui, en fait, on est en moyenne une vingtaine de marcheurs, mais le nombre est assez aléatoire, puisque c'est vraiment libre, donc parfois on est plus de 20, parfois on est un peu moins. Ça dépend du moment de la journée, il y a des gens qui nous rejoignent et qui quittent à certains moments. Voilà, ça se passe assez bien dans l'ensemble. On est beaucoup plus sur les temps de midi et en soirée, puisque c'est des moments qu'on a réservés à la rencontre avec les habitants et d'autres personnes qui veulent nous rejoindre. Et donc il y a vraiment des activités qui sont prévues, comme ce soir à Cellieu par exemple. Il y a une table ronde avec des gens de Saint-Julien-Molin-Molette, de Roibon ou encore de la ligne Lyon-Turin.
Et vous êtes globalement bien accueillis là où vous passez? Enfin, je dis globalement, mais ce soir, c'est le deuxième soir, c'est ça?
Oui, 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 on est assez bien accueillis du côté de Saint-Étienne. Il y a quelques personnes dans certains quartiers qui ont fait quelques centaines de mètres avec nous. Et puis dans l'ensemble, les discussions se nouent assez bien, hein, même dans les petits patelins qu'on traverse. Voilà, on discute pas mal avec les gens et l'accueil est généralement bon, oui.
Mais alors, finalement, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce projet d'autoroute et sur les raisons qu'on peut avoir de s'y opposer?
Oui, ben... Alors, je vais donner un point de vue qui est principalement stéphanois du point de vue de l'opposition, mais qui peut, à mon avis, être réapproprié par d'autres aussi. C'est c'est un projet qu'on nous présente comme étant utile pour un avenir plus radieux, avec création d'emplois, attractivité pour certaines villes, aménagement du territoire et désenclavement aussi de Saint-Étienne. Mais quand on reprend un peu ces mots-clés, en fait, ils sont totalement questionnables. Donc, par exemple, en termes de désenclavement, bien, on voit qu'à Saint-Étienne, par exemple, l'autoroute arrivera dans une zone où il développe énormément d'infrastructures au nord de la ville. Et ça va en fait du coup totalement enclaver le centre et le sud, étant donné que le système de transport en commun n'est pas très très bien développé non plus. En termes d'emploi, une des certitudes, c'est qu'il va y avoir des destructions, notamment d'emplois sur le tracé. On pense à des paysans, mais il y aura aussi des commerçants qui vont y perdre. Par contre, la promesse de création d'emplois, elle est assez hypothétique. Et on se doute bien qu'avec Vinci, les emplois créés qui vont être assez importants et assez prestigieux sont déjà attribués. Donc restera dans la région plutôt des petits emplois assez dangereux et qui peuvent aussi mettre en péril la santé des gens, par exemple.
Mais alors, pourquoi est-ce qu'ils veulent construire une deuxième autoroute en sachant qu'il y a déjà une autoroute entre Lyon et Saint-Étienne?
Il y a plusieurs arguments qui sont avancés, dont celle de la rapidité, d'un gain de temps qui serait gagné en fait par un désengorgement de l'autoroute A47. Mais ça reste un argument assez hypothétique. Après, l'histoire de ce projet est assez longue, il y a beaucoup d'arguments qui ont été avancés. Il y a même celui de faire une autoroute qui partirait d'Espagne et qui irait jusqu'en Allemagne. Donc il y a énormément d'arguments, puisque c'est un projet qui a une trentaine d'années. Le problème actuel aussi étant celui du financement, par exemple, de cette autoroute qui a un coût astronomique.
Et qui a un coût astronomique qui va être payé par qui?
Alors, le coût en total, au minimum, c'est 1,2 milliard. Alors, au niveau de la décomposition, il y a 130 millions qui sont payés par Saint-Étienne Métropole, 130 autres millions par la région et 130 autres millions encore par le département et 350 millions par l'État. Donc, en fait, ça veut dire que les gens vont payer l'autoroute 4 fois, en tout plus une cinquième fois s'ils la prennent, ils vont payer, quoi.
Pardon, que je me reconcentre.
Oui.
Ok. ouais, bon. Alors, d'accord, j'ai un petit peu du mal ici dans le studio, je sais plus. Si, continue à. Si, est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce qu'il y a des gens de Saint-Julien-Molin-Molette qui vont venir demain soir, je sais plus.
C'est ce soir. De Saint-Julien-Molin-Molette.
Et dans quelle mesure c'est en lien aussi avec cette histoire d'autoroute? Et peut-être que ça peut permettre de parler des dommages collatéraux de cette autoroute?
Oui, absolument. Donc en fait, les gens de Saint-Julien-Molin-Molette sont là parce qu'il y a une carrière à Saint-Julien. Et l'extraction de pierre de cette carrière va vraisemblablement servir à faire les soubassements de l'autoroute. Donc en fait, au-delà de l'autoroute, il y a énormément d'entreprises locales qui vont être amenées à s'agrandir et à encore étendre leur activité. Là, dans le cas de Saint-Julien-Molin-Molette, c'est avec beaucoup de désagréments, notamment au niveau du nombre de camions qui passeront quotidiennement et au niveau de la poussière et des autres substances qui sont dégagées, en fait.
Oui, parce que alors pour le coup, à Saint-Julien, pour l'instant, il y a plus ou moins un camion toutes les 3 minutes qui passe rempli de pierres et qui fait de la poussière, etc., dans le centre du village. Ça, le nombre pourrait être multiplié par 3 si les projets d'agrandissement de carrière complètement liés à l'autoroute allaient jusqu'au bout.
Oui, c'est oui. Enfin, je connais, j'ai pas les chiffres en tête, mais c'est très probable. Il y a aussi le problème du bruit, puisqu'il y aura énormément de détonations supplémentaires. Et donc, il y a aussi un désagrément à ce niveau-là pour les habitants qui sont proches du site.
Est-ce que tu sais s'il y a d'autres trucs qui sont en lien avec l'autoroute et qui sont nuisibles dans ce même genre ou...
Il y a une entreprise qui va fournir le bitume, vraisemblablement, j'ai pas le nom en tête, mais il va, voilà. Mais après, tant que la concession n'est pas vraiment accordée et que le marché n'a pas été lancé, il est difficile de dire si ça va être des entreprises locales ou pas qui vont avoir les marchés. Donc,
ce projet d'autoroute, théoriquement, il est pour quand ?
Ça, c'est toute la question. Là, l'accord vient d'être donné par le Conseil d'État. Donc maintenant, manque un décret ministériel pour vraiment accorder la concession à Vinci. Mais ça, on n'a aucune idée du temps que ça peut prendre, en fait. Et puis après, une fois que Vinci aura vraiment la concession, les marchés vont être ouverts, avec beaucoup de chance pour que ce soit les succursales de Vinci qui décrochent tous ces marchés-là, en fait.
D'accord. Est-ce que, pour terminer, tu peux nous dire comment vous allez terminer cette marche, ce qui va se passer ce week-end ?
Alors, on va terminer cette marche sous la pluie, visiblement, parce que là, il y a un gros orage qui vient de se déclarer, donc voilà. En fait, on marche assez lentement, hein. On fait 10 à 15 km par jour, hein. La volonté est d'aller doucement contre un projet d'autoroute qui promeut la vitesse. Donc, demain soir, nous serons à Saint-Joseph. On arrive vendredi soir donc à Saint-Maurice-sur-Dargoire pour passer les 2 jours du rassemblement et la marche arrivera mardi à Lyon.
Ok, et il y a des réjouissances prévues pour votre arrivée ?
À Lyon, il y aura vraisemblablement un rassemblement à la métropole ou à la région, pardon. À la région.
D'accord.
On n'a pas encore l'heure, ni voilà, ça va se préciser en cours de route. Vers 18h, probablement en fin de journée, 17-18h.
D'accord. Est-ce que tu sais l'adresse de où c'est, la métropole ?
Non, c'est pas la métropole, c'est à la région, à Lyon. J'ai aucune idée d'où sont les locaux. À Confluence, on me dit.
D'accord. Très bien. De toute façon, toutes ces informations seront certainement répétées par les Canu Info de demain et après-demain. Elles seront aussi certainement sur le site rebellion.info. Donc, a priori, il y a moyen de vous retrouver samedi devant les bureaux de la région. Écoute, Marion, merci. Bon courage pour la suite de la marche.
Merci à vous.
Et puis à samedi.
Oui, bonne soirée, au revoir.
Écoutez.
À tout moment, il peut venir te prendre pour le moment qui est à leur disposition.
Il est sans papier, c'est pour cela qu'on traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à expliquer.
J'arrive pas à comprendre que je sois vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des lignes par terre. C'est que les lois mises en place. C'est que les lois mises en place.
Blabla, info, contre la machine.
Contre la machine à expulser. Et donc, je vais vous lire un extrait, un bout d'un témoignage d'un débarquement d'une personne tentant d'être envoyée en Afghanistan parce que contre les expulsions, il y a des manières de réagir dans l'avion. On en parle de temps en temps, ça se fait de moins en moins. Là, on s'est dit ça valait le coup de revenir dessus. Donc ça s'est passé le 23 juin à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, donc un homme de nationalité afghane qui devait être envoyé de force vers Kaboul via Istanbul. Il était maintenu en centre de rétention depuis 44 jours. Et par deux fois, la police l'avait conduit à l'aéroport. Et par deux fois, des militants ayant alerté l'équipage, la résistance de certains avait réussi à le faire débarquer. Donc là, à ce moment-là, c'était l'équipage de bord qui s'était opposé à l'expulsion. Et bah, cet homme, il est coupable de rien, à part le fait de demander l'asile et que ça a été refusé, et qui s'est retrouvé régulé sur le territoire français. Il a été donc emprisonné en centre de rétention administrative, et donc 44 jours, ça leur laissait que un jour pour finir, du moins pour finir. Ils étaient obligés de le libérer, donc le 45e jour, c'était important, donc qu'ils l'expulsent. Là, je parle sur le pouvoir. Voilà, et donc, je me perds un peu. Donc, le 45e jour, les militants donc là, qui d'un groupe qui s'appelle La Chapelle Debout se sont vus alertés dans la matinée de la déportation. Et donc, ils se sont remobilisés une troisième fois. Et donc, l'après-midi même, ils sont allés directement, une dizaine de personnes sont allées à l'aéroport. L'équipage a été briefé malheureusement par la hiérarchie qui était invoquée par l'équipage à chaque phrase. Et donc, les hôtesses, le pilote, tout le monde, du coup, de Turkish Airlines, ont refusé avec la plus grande fermeté de faire quoi que ce soit pour cette personne. Et donc là, je commence la lecture du témoignage. Donc, convaincre l'équipage semblait à peine perdu, et alerté par contacts divers que nous avions, tout intérêt à être discret, sinon on vous embarque. Donc 10 d'entre nous vont individuellement, après avoir informé l'équipage, donc informer de la situation chaque passager quand ceux-ci acceptent de prêter leur oreille. Nous distribuons également un tract expliquant la situation de M, donc la personne qui va se faire expulser, ses revendications et la procédure à suivre pour faire usage de son droit à refuser de décoller dans un avion où un homme menotté, masqué, parfois drogué et encadré par la PAF, est contraint de rentrer dans un pays en guerre. En gros, c'est simple, tu dis non. Oui, parce qu'il faut le préciser, c'est contre l'interdiction théorique, selon les conventions de Genève, de renvoyer des ressortissants dans des pays en guerre. Là, il s'agit de l'Afghanistan. Donc, les dés sont jetés, même si une partie essentielle de l'action allait avoir lieu par téléphone, entre passagers, dans l'avion et militants assis en rond autour d'un poteau du hall 20. Trois femmes au téléphone, en français, en anglais, les échanges reprennent, s'arrêtent, des SMS, des nouvelles de l'avion, où est-il, masqué au fond, l'entendez-vous, que dit l'équipage, ça semble compliqué, mal parti, merde, l'avion décolle, donc là c'est foutu, mais l'avion a finalement fait demi-tour, le pilote avait tenu à décoller malgré l'opposition de certains passagers, M quant à lui était solidement encadré par la face, PAF, aujourd'hui je ne vais pas y arriver à dire la PAF, hein. Masqué et menotté au fond de l'avion, donc les passagers n'avaient pas pu avoir de contact avec lui, les policiers leur avaient menti en leur disant qu'il était faux, que M avait une femme et un enfant en France et qu'il était dangereux ayant fait des choses dans son pays. Bref, le pilote avait lancé l'avion rapidement et M s'est mis à hurler et puis la vous voyez, ralenti, les passagers se sont levés un par un et à plusieurs. L'avion roulait, les passagers restaient debout. Au bout d'un certain temps, le pilote a été contraint de ralentir et d'arrêter sa machine pour raisons évidentes de sécurité. M a été débarqué et ramené au CRA. En principe, il devait être libéré le samedi matin. Voilà comme petit témoignage qui fait plaisir et du bien.
Ça sache. Et puis l'info est pas toute nouvelle, elle date de lundi, mais comme on a pas mal suivi cette affaire, on va quand même en reparler rapidement. Du côté de Calais, le tribunal administratif de Lille a donné en grande partie raison aux 11 associations qu'il avait saisies par référé pour demander l'arrêt des entraves à la distribution de nourriture pour les 400 à 600 réfugiés qui se baladent dans Calais. Alors, on, très très rapide résumé de ce qu'on a raconté dans les dernières semaines. À Calais, les réfugiés n'ont pas accès à l'eau parce que tous les points d'eau ont été fermés exprès pour leur rendre la vie invivable. À chaque fois qu'ils s'asseyent quelque part, on les fait dégager. Ils n'ont aucun endroit pour dormir. Et les assos qui ont essayé de mettre en place des douches, les flics sont venus et ont par exemple contrôlé l'identité des gens juste devant les douches. Quand elles ont essayé de faire des distributions de nourriture, ça a aussi été empêché par les flics. Un premier tribunal administratif avait interdit les arrêtés municipaux de la maire de Calais qui elle-même interdisait ses repas. Donc le tribunal administratif avait autorisé ses repas, mais une fois que c'était plus sous forme d'arrêté municipal, c'était tout simplement la police nationale qui venait et qui interrompait les distributions à coup éventuellement de grenades lacrymo. Au bout d'un moment, les associations, y compris du coup les associations qui longtemps ont voulu se démarquer des no-borders en étant extrêmement respectables, extrêmement en lien avec les autorités, ont quand même fait un référé devant le tribunal administratif pour dire qu'il fallait quand même au moins qu'ils aient de l'eau et qu'on puisse leur donner à manger. Et donc là, le tribunal administratif a dit d'accord. Pour le tribunal administratif de Lille, l'urgence est caractérisée à Calais. Et donc le juge des référés a estimé que plusieurs mesures devaient être mises en place dans un délai de 10 jours, à partir donc de lundi, pour faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales des personnes exilées vivant actuellement sur la commune. Alors tout ça, bien sûr, est arrivé juste après ce petit discours de notre ministre de l'Intérieur, qui était plutôt ultra répressif et ultra sur le côté il faut qu'on leur rende la vie complètement invivable de manière à ce qu'ils dégagent ou voire qu'ils arrêtent d'exister. La dernière chose que je veux dire avant de laisser la parole au fil d'Ariane, c'est que la maire de Calais, Natacha Bouchard, elle a dit qu'elle en avait rien à foutre de ce que voulait le tribunal administratif, puisque, dit-elle, les exigences du tribunal administratif, alors ce qu'elle appelle exigences, qui est donc l'arrêt du tribunal, les exigences du tribunal administratif sont inacceptables, dit-elle. Et elle dit qu'elle va faire appel et elle dit redouter la création de nouveaux points de fixation. Dans un tweet, elle a ensuite fait connaître sa position sur cette injonction de justice. Considérant que la réponse humanitaire peut être apportée en dehors de Calais, nous avons décidé de ne pas appliquer les mesures locales du tribunal administratif. Donc elle dit ce qu'a dit le tribunal administratif, j'en ai rien à foutre, je le ferai pas. Le tribunal administratif a fixé une astreinte, c'est-à-dire un truc que la mairie doit payer si elle met pas en place les décisions, 200 € par jour de retard. Je pense que 100 € dans le budget de la mairie de Calais, ça doit de toute façon pas être énorme.
Il faut que ça se sache.
C'est fini.
Le tribunal, veuillez vous lever.
Tribunal.
Audience.
Signification.
Putatif.
Amiable.
Juridiction.
Convocation.
Ayant
signation.
Flagrant.
Procureur.
Amiable.
Constitution.
Juridiction.
Signification.
Incompétence.
Signalage.
Convocation.
Relax.
Abusif.
Procureur.
Usurpation.
Flagrant.
Constitution.
Amphitryotique.
Procureur.
Et juridiction.
Citation. Assignation.
Usurpation.
Requête.
Récitation.
Constitution.
Authentique.
Incompétence.
Exécution.
L'audience est ouverte. Vous pouvez vous asseoir.
Le fil d'Ariane. Des informations pratiques sur le droit et la justice.
Bonsoir.
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 Alors, c'est une nouvelle émission du fil d'Ariane qui est consacrée ce soir aux violences conjugales. Parce qu'on se disait qu'un thème un peu sympa comme ça pour terminer l'année, ce serait bien. Le fil d'Ariane, c'est 4 avocates qui tentent d'aborder des questions juridiques de façon simple et pratique. Alors, on fait ce qu'on peut, mais on essaye en tout cas de donner des informations à peu près claires sur certains thèmes. Et du coup, donc, ce soir, on va parler des violences conjugales, qu'on va en entendre violences au sein du couple, pas forcément entre personnes mariées, mais également entre personnes qui sont paxées ou simplement qui vivent en concubinage. On l'aborde sous un angle juridique et pas social ou politique, même si évidemment, c'est des questions qui sont liées. Mais ce soir, la question, c'est plutôt d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on a été victime de violences au sein du couple et qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour être protégé. Cela dit, avant de prendre le point de vue juridique, juste, ça serait important de rappeler quelques chiffres qui montrent l'importance de ce phénomène-là, puisque selon le site officiel Stop Violence Femmes, chaque année, il y a 216 000 femmes qui sont victimes de violences physiques ou sexuelles de la part d'un ancien ou d'un actuel partenaire, c'est-à-dire 1% de la population totale des femmes entre 18 et 75 ans. Et en 2015, 180 personnes sont mortes dans d'homicide, forcément dans mort d'homicide, en tout cas au sein du couple. 122 étaient des femmes, 22 étaient des hommes, dont 40% de ces hommes-là étaient aussi auteurs de violences. Du coup, on imagine dans quel contexte ça a pu être fait, et 36 étaient des enfants. Donc, simplement statistiquement, et même si des hommes peuvent être victimes, en proportion, c'est une proportion qui est vraiment très très faible. Du coup, on va souvent parler des femmes. Voilà. Mais effectivement, il peut y avoir des hommes qui sont aussi victimes de violences conjugales. Simplement, en termes numériques, c'est assez une faible proportion. Quand on parle de violence, on parle de violence physique ou sexuelle, mais également ça peut être des violences morales ou psychologiques, type brimade, harcèlement, menace, donc tout type de violences qui peuvent être prises en compte dans ces cas-là. Et la particularité des violences conjugales, c'est le lien qu'il y a entre l'auteur et la victime, puisqu'en fait il y a un lien, on va dire, intime, puisque c'est un conjoint, une conjointe, un partenaire, un concubin, éventuellement. Alors ça, c'est d'un point de vue juridique, il n'y a pas de qualification particulière, mais ça peut être aussi un amant, ça peut être un petit ami, donc pas forcément quelqu'un avec qui on habite. Par contre, d'un point de vue juridique, les violences conjugales, donc la circonstance aggravante du fait que ces faits sont commis dans un lien de conjugalité, c'est vraiment les partenaires un peu officiels, donc au moins la personne avec qui on habite, le partenaire ou le conjoint. Et la particularité aussi des violences conjugales, c'est que souvent, il y a une cohabitation. Enfin, d'ailleurs, d'un point de vue juridique, c'est ça. Donc ça veut dire aussi que non seulement on est victime de violences, mais en plus, c'est la personne avec laquelle on vit, on partage une partie de sa vie, en tout cas. Donc cette double particularité, elle implique une double réponse juridique, et c'est ce qu'on va aborder ce soir. D'abord le volet pénal, c'est-à-dire l'aspect répressif. Comment ça peut être condamné par la société, puisque c'est le but de la répression pénale. Et aussi comment on peut protéger la victime. Et donc là, ce sera une réponse plus civile. Donc on va aborder ces deux aspects-là, en essayant d'apporter des réponses encore une fois le plus pratiques possible. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire immédiatement quand on a été victime de violence?
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a été victime immédiatement de violence? On pense que la première chose à faire, peut-être, c'est d'aller voir un médecin. Aller voir un médecin pour que ce dernier puisse constater les violences, qu'elles soient physiques ou psychologiques, sachant que le médecin peut également fixer une incapacité temporaire de travail. C'est-à-dire qu'il dit pendant 2 jours, 3 jours, 6 jours, 15 jours, cette personne n'est pas en capacité d'aller travailler. Et certificat médical, il va servir s'il y a une procédure, qu'elle soit intentée au niveau civil ou pénal, ce certificat médical va pouvoir servir de preuve. Et pour constater la violence et pour évaluer le préjudice. Ce qu'on conseille également aux personnes qui ont été victimes de violences, c'est de faire des photos. S'il y a eu une violence physique, s'il y a des coups sur le corps, parce que parfois il y a des bleus, mais ceux-ci ils peuvent disparaître assez rapidement, on leur conseille de faire des photos. Troisième chose, la personne peut aller porter plainte. Et d'ailleurs, la personne peut aller porter plainte tout de suite après avoir été victime de violence, mais parfois les victimes de violence vont porter plainte une semaine, 2 semaines, 3 semaines, des jours après. Et dans cette circonstance, enfin dans cette hypothèse, les violences parfois physiques disparaissent. Il n'y a plus de preuves, et c'est la raison pour laquelle c'est bien de pouvoir faire des photos, et c'est bien également d'être allé voir le médecin. Donc la personne peut aller porter plainte, elle sera donc entendue par un officier de police judiciaire. Fréquemment, lorsqu'une personne porte plainte, après le commissariat, la police convoque l'auteur des faits pour que ce dernier soit auditionné, voire placé en garde à vue, et il peut y avoir une confrontation. Donc c'est vrai que la victime, faut qu'elle soit prête à être remis, confronter les faits qu'elle allègue. Mais il faut savoir que cette personne pourra toujours être aussi accompagnée d'un avocat lors de cette confrontation. à l'issue de cette confrontation ou à l'issue des auditions, j'entre pas dans les détails, hein, mais c'est vraiment juste pour expliquer le cadre, il y a une poursuite qui pourra être décidée par le procureur. Enfin, on indique également aux personnes qui sont victimes de violences qu'elles peuvent contacter des associations. Non seulement il y a un numéro, hein, qui est un appel gratuit, le 3919, qui est géré par la Fédération Nationale des Solidarités Femmes. C'est un appel qui est disponible 7 jours sur 7, jusqu'à 22h en semaine et jusqu'à 18h le week-end, où des personnes écoutent les victimes qui ont été violentées. Alors attention, c'est pas un numéro d'urgence, c'est-à-dire que si vous appelez le 3919, ils vont pas intervenir chez vous, ils vont pas pouvoir vous extirper de cette situation, mais c'est un appel qui peut être contacté à tout moment pour pouvoir parler des difficultés, aussi des difficultés qu'on a parfois à avouer d'être victime de violence. Il y a une association à Villeurbanne qui s'appelle VIFIL. En fait, c'est la fusion de deux associations, VIF et FIL, peut-être que certains d'entre vous connaissent. Et là, c'est un centre d'écoute, un centre d'information, d'accompagnement dans toutes les démarches administratives, dans les démarches d'indemnisation. Et c'est également un lieu qui héberge des personnes. Il y a 94, je crois, appartements, des appartements qui sont individuels et qui accueillent des mères, des enfants qui sont victimes de violences et qui doivent quitter le domicile familial. Ce qu'on conseille également, c'est de parler. C'est-à-dire que si la personne elle n'a pas forcément le courage d'intenter une procédure, en tout cas, parlez à vos proches et n'hésitez pas à contacter des associations qui sont là pour vous écouter.
Le fil d'Ariane, des informations pratiques sur le droit et la justice. Et pour ce qui est, donc, quand on a été au commissariat et qu'on a porté plainte, qu'est-ce qui peut advenir ensuite de la plainte qu'on a déposée ?
Alors, pour ce qui relève du pénal, et on le rappelait en début d'émission, on va aborder deux axes juridiques, et tout ce qui relève du pénal, c'est bien le rapport entre, dans l'esprit du pénal, entre la société et l'individu mis en cause en question, d'où le fait que, notamment, les poursuites pénales vont pouvoir se poursuivre, on y reviendra tout à l'heure, même si la victime ne porte pas plainte au niveau pénal. Une action au niveau pénal peut être engagée, parce qu'on considère que c'est là la société qui réagit face aux violences qui ont été exercées, et ensuite, plus tard, on viendra sur la question civile et donc la relation familiale qui est également traitée mais dans un autre cadre judiciaire. Alors, suite à un dépôt de plainte, et j'insiste bien sur le fait qu'il s'agit d'une plainte et pas d'une main courante, donc la situation de violence est signalée et on va avoir une réponse ou pas au niveau pénal. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce domaine-là, pour avoir une action pénale, il faut que les faits, donc ce qui s'est passé, entrent dans ce qu'on appelle une qualification pénale. Et dans ce domaine-là, la loi est relativement stricte au regard des enjeux pour les personnes mise en cause, et il faut vraiment que chaque infraction est précisément définie par le code pénal, et il faut que toutes les conditions prévues par ce texte soient entièrement réunies pour qu'il y ait des poursuites pénales et le cas échéant, une condamnation à la suite. D'où le fait que, très concrètement en audition, il y a certaines questions qui vont être posées, et qui vont être posées en fait pour que les officiers de police, ensuite le procureur de la République, puissent qualifier les faits et caractériser en fait chacune des conditions donc nécessaires pour ensuite poursuivre au niveau pénal. Donc les violences, on le disait aussi, ça peut recouper différentes infractions, bien sûr les violences, donc c'est une infraction en tant que telle, les violences physiques, et le fait d'être l'effet que les violences soient exercées par un concubin, un partenaire ou par son conjoint, c'est une circonstance aggravante. Donc en fait, ça va augmenter la peine encourue par la personne. Avec cette notion de communauté de vie, effectivement, en matière de violence, il peut également y avoir des poursuites pour l'infraction de harcèlement, donc qui est précisément définie par le code. Et dans cette hypothèse-là, ce qui est intéressant, c'est que le code va plus loin. Il parle donc du concubin, du partenaire, du conjoint, mais également de l'ex, des anciens, donc concubin, partenaire ou conjoint. Et il peut y avoir des poursuites pénales, donc également pour ces personnes-là. Et puis, autre infraction qu'on retrouve, c'est le viol et les menaces. Après, selon les faits, ça peut bien sûr entrer dans d'autres qualifications, mais là, on aborde vraiment les qualifications générales.
Et peut-être qu'il faut repréciser que le viol, même si on est concubin, même si on est paxé, même si on est marié, ça reste un viol.
Ça reste une infraction, oui. et circonstances aggravantes si c'est commis par son concubin, son partenaire ou son conjoint en plus, effectivement. Donc si les faits correspondent à une qualification pénale, c'est ensuite le procureur de la République qui va prendre une décision. Procureur de la République, pourquoi ? Parce qu'on est en pénal et c'est lui qui représente la société, donc qui est censé représenter les intérêts de tout le monde, et donc va décider, il a trois options, c'est ce qu'on appelle l'orientation des poursuites. Soit il décide de ne pas poursuivre, alors il considère que les faits sont pas suffisamment caractérisés, ou alors politique pénale, il ne poursuit pas. Il décide de poursuivre, j'y reviendrai, ou alors il décide de faire ce qu'on appelle des mesures alternatives aux poursuites. Cette décision, le procureur de la République, il va la prendre sur la base des auditions, des procès-verbaux que les officiers de police vont rédiger donc au fur et à mesure de l'enquête, au regard de la gravité des faits, du positionnement aussi du prévenu ou du mis en cause, selon s'il reconnaît les faits, s'il nie les faits, quelle réaction il va avoir en fait en audition face à ce qu'on lui reproche. Et aussi, et ça c'est une donnée importante, et depuis je crois quelques années, ça compte du coup véritablement, en fonction de la politique pénale aussi. C'est-à-dire que les procureurs de la République ont des recommandations du ministère d'orienter leurs poursuites sur certaines infractions, et c'est vrai qu'actuellement il y a eu plusieurs circulaires pour signaler que bah oui, on voulait apporter une réponse pénale à ces violences-là. Donc s'il y a des poursuites décidées par le procureur de la République, alors là je suis désolée, je vais devoir faire vraiment très général, parce que chacune des hypothèses sinon mériterait presque une émission en tant que telle. S'il décide de faire des poursuites, donc il peut soit renvoyer devant un tribunal correctionnel, soit en procédure de reconnaissance préalable de culpabilité, c'est dans l'hypothèse où la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Le procureur peut aussi décider, au regard de la gravité des faits, d'ouvrir une instruction, y compris au niveau criminel, puisque on peut être dans une procédure criminelle si les violences sont extrêmement graves. Donc on atteint notamment, on a créé une infirmité chez la victime avec la circonstance aggravante, donc que c'est commis dans un cadre conjugal. Donc voilà les différentes options s'il décide de poursuivre. Autre possibilité, c'est ce qu'on appelle donc les alternatives aux poursuites pénales. Alternative, donc c'est on dit alternative parce qu'en fait on a une réponse pénale, mais le procureur de la République va décider de pas aller jusque devant un tribunal, jusque devant un juge, mais d'orienter en fait en quelque chose qui est un peu entre deux. Donc voilà, c'est quand même une réponse pénale, mais c'est pas dans un cadre totalement judiciaire, sachant que si la personne ne respecte pas les injonctions qui lui sont données dans le cadre de ces mesures alternatives, il peut quand même y avoir des poursuites pénales ensuite. Donc c'est pas exclusif, c'est vraiment presque comme une forme de chance accordée, d'opportunité de se rattraper. Et si la personne, par contre, ne suit pas, ne respecte pas ça, ça peut quand même ensuite aller vers des poursuites pénales classiques, donc celles que j'ai listées tout à l'heure. Les mesures alternatives aux poursuites, ça va notamment être, et là je prends encore une fois, c'est pas exhaustif, hein, mais les cas vraiment qui concernent les violences conjugales, rappel à la loi. Il existe aussi une réponse donc spécifique pour cette infraction-là, qui est ce qu'on appelle un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et les violences sexistes. Voilà, un stage exprès dédié à tout ça. Autre réponse spécifique aux violences conjugales, c'est le procureur ou le délégué du procureur qui peut demander, qui peut enjoindre à la personne donc mise en cause ou prévenue de résider hors du domicile, puisqu'on le disait tout à l'heure, les violences conjugales supposent en principe que les personnes vivent sous le même toit, puisque ça fait partie des éléments de qualification. Donc le procureur ou son délégué peut demander à la personne de quitter ce domicile, ou de quitter le domicile de la victime, et de ne pas s'approcher de ce domicile, de ne pas s'approcher de la victime, donc d'avoir interdiction de paraître dans certains lieux. Si le procureur décide de faire ça, il doit demander les observations à la victime, donc lui demander ce qu'elle en pense, son avis, avant de prendre la décision, sachant que c'est une mesure que le procureur peut prendre sur une durée de 6 mois, et il peut aussi organiser très concrètement le coût de tout ça, donc à qui reviendra le coût du logement. Il existe aussi une autre réponse spécifique aux violences conjugales, qui est d'obliger la personne à être prise en charge au niveau, je cite le texte, sanitaire, social ou psychologique. Donc voilà, orienté en quelque sorte vers des soins, vers une thérapie. Il y a aussi une hypothèse qui est la médiation, qui est une réponse pénale classique en mesure alternative aux poursuites pénales, mais avec une spécificité pour les violences conjugales. Il faut que, pour qu'il y ait une médiation mise en place, il faut que la victime l'ait expressément demandé. Si la victime ne l'a pas demandé, bien sûr, au regard des faits, il n'y a pas de médiation possible. Et aussi, s'il y a récidive, même si la victime le demande, il n'y aura pas de médiation possible. Ça sera tout de suite des poursuites pénales.
Dernière hypothèse, aussi dans ces mesures alternatives, c'est ce qu'on appelle la composition pénale. Donc ça, c'est une procédure spéciale en droit pénal. Là aussi, les mesures qui peuvent être prises, elles sont assez similaires. C'est ne pas paraître au domicile, ne pas rencontrer la victime, donc ne pas s'approcher de son lieu de résidence, d'être prise en charge au niveau sanitaire, social ou psychologique. Ce fameux stage de responsabilisation, on le retrouve aussi dans la composition pénale. Et il y a une dernière particularité, c'est que par rapport aux violences conjugales, et ça fait seulement quelques années, il existe aussi ce qu'on appelle un dispositif de téléprotection. C'est prévu par le code de procédure pénale. C'est dans le cas de violences graves ou alors répétées, ou alors si on pense qu'il y a une menace très forte sur la victime. C'est un système en fait qui permet à la victime d'alerter rapidement, donc c'est un appareil qui permet d'alerter rapidement et aussi à être géolocalisé si elle a consenti à ça au préalable. La victime donc a simplement à signaler, elle peut être, son emplacement peut être identifié et donc une intervention rapide, voilà, par rapport aux questions de violence.
Et ça, dans la pratique, ça marche?
Alors,
moi, je l'ai vu qu'une fois, mais j'avoue que j'étais pour l'époux violent, en fait. Mais donc, l'épouse, dans le cadre justement de la procédure devant le juge d'affaires familiales, produisait le justificatif du fait que le procureur lui avait accordé ce système de téléprotection. Après, elle disait pas qu'elle l'avait utilisé et tout ça, mais en tout cas, elle en bénéficiait. Mais du coup, concrètement, je sais pas si ça marche, mais en tout cas, il est attribué parfois. Voilà.
Et je crois que concrètement, c'est un téléphone qui est remis, c'est ça?
Oui, il me semble que c'est un téléphone ou avec une sorte de numéro d'urgence.
Et j'ai une autre question, puisqu'on vous a coupé, c'est le stage, il est mis en place par qui, vous savez?
Alors ça, non, franchement, je sais pas. Je pense que ça doit être par des associations donc, qui
en
organisent
principe,
ça.
En principe, ils délèguent, ouais. Enfin, ils prennent des associations agréées ou
notamment le planning familial, j'imagine, qui sont bien formés là-dessus.
Oui, peut-être, ouais. Il doit y avoir des conventions entre le parquet et certaines associations, j'imagine, ouais, dans l'organisation.
Et dernière chose sur les poursuites pénales, c'est que là on a abordé les mesures alternatives aux poursuites pénales, de façon très générale les poursuites pénales. Ce qu'il faut savoir, c'est que si une instruction criminelle est ouverte notamment, il peut y avoir des mesures équivalentes, notamment de ne pas paraître au domicile, de quitter le domicile, de ne pas contacter la victime, notamment s'il y a un contrôle judiciaire, ou alors après condamnation, donc après que l'audience soit passée, que la personne ait été condamnée, il peut y avoir un sursis mis à l'épreuve avec pareil, le même genre d'obligation qu'on retrouve, ne pas paraître au domicile, ne pas entrer en contact avec la victime.
Le fil d'Ariane, des informations pratiques sur le droit et la justice.
C'est toujours le fil d'Ariane, on parle aujourd'hui ce soir des violences conjugales et la question suivante, après avoir examiné les poursuites pénales, c'est comment faire quand on est victime pour se protéger tout de suite?
Alors là, on a vu du coup tout à l'heure le volet pénal et on a vu que c'était... tout était un peu entre les mains du procureur et du coup le fait que la victime elle maîtrise pas du tout la réponse qui va être apportée aux violences dont elle a été victime justement et qu'elle maîtrise pas du tout le délai, la réponse pénale, etc. Donc il y a la possibilité sur le plan civil pour la victime d'agir et de faire des choses pour obtenir une protection effective un peu au rythme que souhaite la victime et donc la victime de violences conjugales peut demander la délivrance d'une ordonnance de protection.
Et qu'est-ce que c'est une ordonnance de protection?
Alors pour simplifier, c'est une décision qui est rendue par le juge d'affaires familiales, donc pas par le juge pénal. Le juge d'affaires familiales, décision qui est rendue en urgence pour protéger la personne victime de violence de la part de son conjoint, toujours au sens large, en organisant en urgence la séparation. Alors, je vais expliquer un peu plus en détail par la suite les mesures qui peuvent être prises par le juge d'affaires familiales dans ce cadre-là, dans l'ordonnance de protection. Mais il faut savoir que la mesure principale en termes de protection, c'est le fait que le juge statue sur la résidence séparée du couple et va dire qui reste dans le domicile conjugal ou familial, parce que finalement la première protection c'est de permettre la séparation de la victime et de son conjoint violent. Donc en clair, ça permet de forcer le conjoint violent à quitter le domicile familial et donc d'empêcher que les violences continuent, notamment quand la personne qui est victime de ces violences n'a pas les moyens financiers de partir et que par exemple si elle a fait appel aux associations dont on a parlé tout à l'heure, les associations, si elles sont déjà débordées et si les appartements qu'elles peuvent mettre à la disposition sont déjà complets, qu'elles ne se retrouvent pas non plus à devoir être contraintes de rester au domicile avec le conjoint violent.
Et qui c'est qui peut demander cette ordonnance de protection?
Alors c'est important de préciser que cette ordonnance de protection, elle peut être demandée par toute personne en couple. Alors le couple qu'on a défini tout à l'heure, ça veut dire mariage, pax ou concubinage, étant précisé que c'est quand même une des grandes avancées des dernières années, parce que ce que j'explique là, c'est quand même assez récent. Jusqu'en 2010, il n'y avait que les époux qui pouvaient faire ce qu'on appelait un référé violence pour demander au juge d'affaires familiales de forcer l'époux violent à quitter le domicile conjugal, et on n'avait pas le même système de protection pour les conjoints, enfin pour les concubins pardon, et pour les partenaires. Et c'est la loi de 2010 qui a créé l'ordonnance de protection et qui a donc étendu ce régime de protection à l'ensemble des couples.
Et comment est-ce qu'on peut obtenir cette ordonnance de protection ?
Alors, il y a des conditions. Donc évidemment, il faut qu'il y ait des violences, mais ce qui est une particularité avec l'ordonnance de protection, c'est qu'on est en matière civile et on a une distinction donc, par rapport au pénal. La distinction, c'est que par rapport à la preuve à apporter des violences, la preuve est beaucoup plus souple qu'en matière pénale, puisque en réalité, donc, pour avoir une ordonnance de protection, il faut seulement montrer, alors je dis seulement, mais c'est déjà pas mal, il faut seulement montrer que la commission des violences est vraisemblable. Donc ça, c'est la première condition, donc de dire qu'il y a bien eu des violences. Et la deuxième condition, c'est de démontrer que la victime de violence a été exposée à un danger, soit du fait de la gravité des violences, soit du fait de leur caractère répété. Alors, en pratique, pour apporter la preuve que ces deux conditions sont réunies et que du coup, on peut demander à ce qu'une ordonnance de protection soit rendue, en pratique, il vaut mieux avoir déposé plainte, ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Il vaut mieux avoir un certificat médical montrant quand même qu'il y a eu des violences, parce que même si on parle d'une preuve de la commission vraisemblable de violence, il faut quand même apporter un début de preuve, mais en tout cas il n'y a pas besoin d'apporter la preuve que l'auteur des violences a été condamné, et que, du coup ça a été établi par la justice qu'il avait commis ces violences-là. Donc certificat médical, plainte, on peut aussi verser au débat des attestations de la part de l'entourage qui aurait été témoin de violence ou qui par le passé aurait vu certaines choses. Donc ça, c'est les conditions qui seront posées. Après, comment obtenir l'ordonnance de protection ? Il faut engager une procédure. Il faut savoir que c'est donc le juge aux affaires familiales qui est compétent. C'est le juge aux affaires familiales du lieu de résidence de la famille ou du couple, si le couple n'a pas d'enfant, qui est compétent. Le juge aux affaires familiales peut être saisi par la victime ou par le procureur si la victime en est d'accord. En pratique, moi, j'ai jamais vu de cas où c'était le procureur qui saisissait le JAF pour faire délivrer une ordonnance de protection, parce que le procureur a déjà un certain nombre de compétences, enfin, il peut faire déjà pas mal de choses tout seul, donc s'il veut faire quelque chose, il passe pas par le JAF. Donc en pratique, c'est quand même le plus souvent la victime qui saisit le JAF pour demander la délivrance d'une ordonnance de protection, avec une précision qui est quand même importante au stade justement du démarrage de la procédure, c'est que la victime peut être autorisée à cacher son adresse. En règle générale, en procédure civile, quand on engage une procédure, on doit indiquer dans l'acte par lequel on saisit la justice son adresse, et là c'est une des particularités de cette procédure-là qui fait qu'on peut être autorisé à cacher son adresse et à élire domicile, notamment chez son avocat. Pour saisir le juge, il y a deux façons. Il y a soit par requête. Une requête, c'est un acte juridique qui est déposé au greffe du juge aux affaires familiales, et c'est le greffe qui convoque ensuite les parties et qui avise aussi le procureur de la date d'audience, parce que le procureur a quand même, même si on est dans un volet civil, il a son rôle à jouer quand même dans cette procédure-là. Mais en tout cas, c'est le greffe qui fixe la date d'audience et qui convoque les parties, ça veut dire le conjoint victime de violence et le conjoint auteur de la violence. Et la deuxième façon possible pour saisir le juge d'affaires familiales, c'est par ce qu'on appelle, alors je suis désolée, ça va être des mots un peu, ça va être un peu du chinois, ce qu'on appelle une assignation en la forme des référés. C'est donc un acte d'huissier de justice qui est délivré au conjoint auteur de violence, et on dit en la forme des référés parce qu'en fait on va assigner l'époux ou le conjoint ou le partenaire, etc., pour une date d'audience précise du juge aux affaires familiales. Alors, pour être un peu plus concret, en tout cas sur la pratique lyonnaise, parce que sur ça, chaque tribunal a un peu quand même sa pratique, à Lyon aujourd'hui, quand on dépose... Aujourd'hui, moi, la dernière fois que j'ai dû faire une procédure d'ordonnance de protection, quand on déposait une requête, il fallait attendre à peu près un mois avant d'avoir une date d'audience. Alors, un mois, c'est très très long, hein, quand on a un contexte de violence dans une famille. Sinon, donc, quand on assigne ce qu'on appelle en la forme des référés, il faut contacter le greffe du juge aux affaires familiales qui nous donne la date à laquelle on est autorisé d'assigner le conjoint violent devant le juge aux affaires familiales. Aux dernières nouvelles à Lyon, on était sur un délai d'à peu près 2 à 3 semaines avant d'avoir la date d'audience. Alors ça paraît long, mais en même temps c'est important aussi parce que ça permet qu'il y ait du contradictoire quand même et que l'époux, désolé, je parle d'époux à chaque fois, mais c'est valable pour tous les couples, mais ça permet aussi que l'auteur de la violence puisse se défendre aussi.
Et puis, 2 à 3 semaines, il faut savoir que les audiences devant le juge aux affaires familiales, normalement, on attend entre 6 et 9 mois.
Oui, ça permet de relativiser aussi. Mais il faut quand même avoir en tête ces délais-là parce qu'il faut savoir que sur l'ordonnance de protection, c'est la juridiction de Bobigny qui avait été une juridiction test sur ces questions-là parce qu'il y avait une vraie problématique. On a vu qu'il y avait une problématique en France de façon générale sur les violences conjugales, mais à Bobigny, c'était particulièrement difficile. Et à l'époque, alors je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais quand ils ont commencé à mettre en place ce système-là, quand on déposait une requête à Bobigny, en 48 heures, on avait une audience devant le juge aux affaires familiales. Et du coup, c'est sûr, quand après on parle de 2 à 3 semaines, ça paraît assez excessif. Alors je suis désolée, je vais aller un petit peu vite parce qu'il nous reste vraiment pas beaucoup de temps. Donc on a une audience devant le juge aux affaires familiales, c'est une procédure orale et contradictoire, ça veut dire que le conjoint auteur de violence a le droit de se défendre. À l'issue de l'audience, le juge met l'affaire en délibéré et rend sa décision un petit peu plus tard, et il rend une décision qui est susceptible d'appel, mais même s'il y a appel, la décision s'applique de façon provisoire jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle décision.
Et quelles sont les mesures qui peuvent être prises par le juge aux affaires familiales ?
Alors, tout à l'heure, j'ai évoqué le fait que le juge aux affaires familiales, et c'était quand même le principal par rapport à la question des violences, le JAF dit qui c'est qui reste dans le domicile familial, et dans la plus grande partie des cas, c'est la victime de violence qui reste au domicile familial, et on dit donc à l'auteur de la violence de quitter ce domicile, et on peut le forcer à partir du domicile familial. Mais il peut prendre aussi d'autres mesures, le juge aux affaires familiales, il peut donner un certain nombre d'interdictions, il peut interdire au conjoint violent d'entrer en contact avec certaines personnes, et donc notamment avec la personne victime de violence. Il peut aussi interdire d'utiliser des armes, et puis de porter certaines armes. Il peut fixer les mesures par rapport aux enfants, et ça c'est très très important aussi, parce que on voit dans les cas de violence à l'intérieur de la famille que souvent les enfants peuvent servir aussi pour faire du chantage et exercer une forme de violence indirecte à l'encontre du conjoint. Donc le juge fixe aussi le lieu de résidence des enfants. Donc là, clairement, les enfants, ce serait quand même autant qu'ils ne résident pas avec le parent qui a été victime de violence. Il va fixer le droit de visite du parent auteur de la violence, et il peut aussi ordonner une interdiction de sortir du territoire. Et puis il fixe aussi des mesures financières, parce que c'est quand même important aussi, ça paraît accessoire quand on parle de violence, mais c'est important aussi que la personne victime de violence sache que si elle saisit le juge va aussi organiser les choses financièrement et fixer notamment une pension alimentaire pour que la personne puisse retrouver son autonomie.
Et ces mesures, elles durent combien de temps ?
Alors, ces mesures, elles durent maximum 6 mois depuis 2014. Avant, c'était uniquement 4 mois. Mais il y a une possibilité de prolonger, en fait, ces mesures. Quand on est donc parent, soit parent non marié, soit parent marié, et qu'on engage ensuite une procédure pour fixer les mesures sur l'autorité parentale ou une procédure de divorce, il faut savoir que si on saisit le juge aux affaires familiales sur cette autre procédure-là que l'ordonnance de protection, et qu'on saisit le juge dans le délai de 6 mois des mesures, et bien à ce moment-là, les mesures, elles se prolongent jusqu'à ce que le juge aux affaires familiales rende une nouvelle décision. Donc en pratique à Lyon, on peut avoir des mesures qui durent comme ça quasiment un an, mais c'est là où on voit la différence avec des concubins qui n'auraient pas d'enfants. Là pour eux, c'est 6 mois maximum, parce qu'ensuite ils n'ont pas d'autres procédures à faire, sachant que dans ce délai d'effectivité des mesures, les mesures peuvent quand même être modifiées, complétées, amendées, mais il faut que le juge à un moment donné soit saisi par l'une des parties dans ce cas-là.
Du coup, on va prendre une petite minute de plus pour savoir quelles sont les conséquences sur la situation administrative d'une personne étrangère lorsqu'elle est victime de violence.
Oui, alors je vais tenter de répondre très vite, vu l'heure. Peut-être un point important, souvent les personnes qui sont étrangères pensent qu'elles ne peuvent pas forcément être protégées. Or, elles ont la possibilité aussi de demander une ordonnance de protection, et elles ont peur de perdre leur titre de séjour. Quand on est conjoint de Français, il y a un renouvellement de titre de séjour, même s'il y a une rupture de la vie commune, si on prouve qu'il y a eu des violences conjugales. Lorsqu'on est conjoint d'une personne étrangère, il y a un renouvellement du titre de séjour s'il y a une ordonnance de protection. Donc il ne faut pas hésiter à demander une ordonnance de protection. Et c'est vrai que ça limite un peu les choses, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prouver les violences conjugales, il faut qu'il y ait une ordonnance de protection. Pour les personnes étrangères qui sont mariées à un ressortissant communautaire, là il faut qu'elles prouvent les violences conjugales. Donc pas nécessairement une ordonnance de protection, mais des violences conjugales, et notamment pour les personnes qui sont entrées sur le territoire français dans le cadre du regroupement familial. Bon, tout ça c'est un peu technique, mais l'idée c'est de dire que s'il y a eu violence conjugale, qu'il y a eu rupture de vie commune, il ne faut pas avoir peur d'aller se renseigner pour les conditions pour avoir un renouvellement de son titre de séjour. C'est pas parce que la personne part de chez elle, parce qu'il y a eu violence conjugale, que son titre de séjour ne sera pas renouvelé. Voilà.
Du coup, il faut vraiment aller consulter des personnes un peu qualifiées, alors pas forcément avocats, mais associations, mais
exactement.
Dans tous les cas sur les violences, et du coup en particulier,
exactement.
Quand on a des personnes qui peuvent avoir des conséquences.
Et un dernier point important, les personnes qui ont un titre de séjour qui part en voyage à l'étranger, faites des photocopies de vos cartes de séjour et de vos visas, parce qu'il y a des cas où les personnes, enfin les époux, les conjoints, retire les cartes de séjour, prend les papiers de la personne et on a le droit à un visa de retour. Sauf que après, ce qui peut être compliqué, c'est de justifier son identité lorsqu'on est dans son pays d'origine, sans ses papiers, sans son passeport, sans sa carte de séjour. Donc faites des photocopies de vos papiers.
Eh ben merci beaucoup, et je voulais faire une petite précision, c'est si vous écoutez et que ça vous impressionne quand même de faire une démarche juridique, qu'il y a des conseillers, des conseillères justement en planning familial qui peuvent vous écouter et puis voir avec vous la marche à suivre ou des possibilités. Eh ben merci beaucoup pour ce point juridique.
Merci.
Bonsoir
et bon été.